France Inter.
Bonjour à tous, à la une de ce 13h. Un nouvel ordre mondial autour de dirigeants plutôt autoritaires. L'ouverture dans quelques minutes en Chine d'un sommet qui veut redessiner les contours de l'influence politique sur la planète. Nous serons en Chine en début de journal et puis ce projet de nouvel ordre mondial, eh bien nous le commenterons avec notre invité Valérie Niquet, spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique. En France, nous verrons comment François Bayrou tentera ce soir encore d'inspirer confiance. À partir de 18h, il sera l'invité des chaînes d'information en continu. Au PS, Olivier Faure affirme ce matin encore que François Bayrou doit dire au revoir. Une importante page des sports aujourd'hui, France-Brésil à 17h45, c'est du rugby. Deuxième match en Coupe du Monde de l'équipe de France féminine. Il y aura aussi du tennis à partir de 17h. Deux matchs des deux derniers Français, Manarino et Rinderknecht, en lice à l'US Open de New York. Et puis, des algues rouges sur la plage de Sion en Vendée. Des algues, certes, inoffensives pour l'homme, mais qui empestent quand elles se décomposent. Eh bien, on ira se boucher le nez en fin de journal. Et puis, le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, 8 départements en vigilance orange. Attention donc à ces orages qui arrivent, notamment près de la Méditerranée.
Oui, ce sera dans la soirée. En attendant, la perturbation se déplace lentement d'ouest en est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Contre l'hégémonie des États-Unis et de l'Occident sur la scène mondiale, voilà donc un sommet dit alternatif, un sommet qui va s'ouvrir dans quelques minutes en Chine. Une vingtaine de dirigeants européens et asiatiques se sont donné rendez-vous à Tianjin, c'est à une centaine de kilomètres de Pékin. Et le point commun à cette vingtaine de représentants internationaux, c'est de faire la promotion d'une autre gouvernance mondiale anti-occidentale. On va en parler dans un instant avec notre invité. Retenez qu'aujourd'hui, le président Xi Jinping réunit notamment le russe Vladimir Poutine, l'iranien Massoud Pezeshkian, le turc Recep Tayyip Erdogan et aussi l'indien Narendra Modi. On va s'arrêter sur cette relation sino-indienne. Les deux hommes se sont vus ce matin. Les deux pays, la Chine et l'Inde, ont certes des contentieux, notamment frontaliers. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Inter en Chine. La Chine et l'Inde ont aussi des intérêts communs quand il s'agit de faire face à l'Occident.
Oui, exactement. Ce matin, lors d'une rencontre avec Narendra Modi, le président chinois a donné le ton de ses retrouvailles entre les deux pays les plus peuplés de la planète en déclarant que le dragon chinois et l'éléphant indien devaient désormais s'unir pour devenir, je cite, « des amis et de bons voisins ». Le premier ministre indien a répondu en évoquant une confiance mutuelle, des propos donc qui confirment des deux côtés une volonté d'apaisement après plusieurs années de vives tensions. Le différend frontalier dans les montagnes de l'Himalaya, même s'il n'est pas réglé, n'est plus considéré comme un sujet de blocage entre les deux puissances nucléaires. Et surtout, Chinois et Indiens ont désormais une bataille en commun à livrer contre les droits de douane de Donald Trump. C'est ce qui a facilité ce début de rapprochement, même si des sujets de friction demeurent, comme le Dalai Lama ou encore le déséquilibre dans les échanges commerciaux.
Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine. Et bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Depuis 2001 déjà, Pékin a réuni un noyau dur dans ce qu'on appelle l'organisation de Shanghai, avec la Russie, avec quatre pays d'Asie centrale à l'époque. Qu'est-ce que ce sommet chinois d'aujourd'hui veut montrer de plus ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, comme vous l'avez dit, l'OCS existe depuis le début des années 2000 et les prémices existaient déjà au milieu des années 90 et déjà à l'époque, c'était une manière de s'opposer à l'Occident, à l'avancée de l'OTAN vers les nouvelles républiques d'Asie centrale. Donc, il y a toujours cette même logique qui est de constituer une sorte de contre-ordre mondial regroupant des pays ayant des régimes politiques qui ne sont pas identiques mais qui sont proches et fondés sur la l'absence de véritables règles de droit et un autoritarisme assez confirmé, si on met de côté peut-être l'Inde qui est différente. Et donc, le principe, c'est encore une fois, face à l'Occident, de montrer que les États-Unis ne sont pas seuls, que les valeurs occidentales ne sont pas universelles et que beaucoup de pays, un certain nombre de pays, les républiques d'Asie centrale encore une fois, la Chine, l'Inde, la Russie, la Mongolie même, le Pakistan aussi, eh bien, tout ceci, l'Iran, tous ces pays peuvent s'entendre et sont viables, que leur union est viable et qu'elle apporte un autre modèle au reste du monde.
Le point commun, Valérie Niquet, le point commun à la plupart des dirigeants qui sont présents à ce sommet, c'est qu'ils font partie des plus autoritaires de la planète. Le monde serait en train de se redessiner en ce moment entre les démocraties d'un côté et puis les autocrates de l'autre ?
Alors cette division du monde en deux, selon ces lignes-là, n'est pas non plus nouvelle.
Non, mais elle s'affirme de plus en plus.
Peut-être, elle s'affirme. Et alors, il y a des périodes où c'est effectivement plus actif et d'autres moins. Aujourd'hui, la Chine, notamment, a absolument besoin de mettre en avant face aux États-Unis, on l'a dit, et d'autres pays de ce regroupement ont les mêmes intérêts, de mettre en avant cette unité de contre-valeur et également de pouvoir gagner éventuellement le reste de ce qu'on appelle d'une manière un peu vague, le Sud global. Donc c'est certain que ces pays s'affirment contre l'Occident. Ça ne signifie pas que cette organisation soit capable de prendre en charge l'ensemble des tensions qui existent dans le monde et de les résoudre. C'est essentiellement entre eux qu'ils vont essayer de développer leurs liens et surtout mettre ceci en avant. C'est un discours qui est mis en scène pour tenter de minimiser ou de mettre en difficulté notamment les États-Unis de Donald Trump.
Concernant la présence de Vladimir Poutine, dont on découvre un peu plus qu'il peut voyager quand il ne risque rien, Moscou dépend beaucoup de la Chine, notamment en matière de drones.
Alors effectivement, la Chine officiellement ne fournit pas d'armes à la Russie, mais enfin on sait que elle fournit un certain nombre de composants. Elle fournit pas d'armes, contrairement par exemple à l'Iran ou à la Corée du Nord. En revanche, la dépendance, elle n'est pas uniquement militaire, elle est aussi diplomatique. On a vu que lorsqu'on discute de la future situation de l'Ukraine, eh bien Vladimir Poutine a mis en avant le fait que les Chinois pourraient assurer la sécurité en Ukraine pour éviter que ce soit justement uniquement les Européens éventuellement. Donc il y a ce point-là qui est très important et surtout économiquement, depuis les sanctions, le principal marché pour l'énergie russe, c'est à la fois la Chine et l'Inde. Donc c'est un point très important. Et d'un autre côté, la Russie, qui s'est vue couper toute une série de voies d'approvisionnement, eh bien, a accès à tous les biens de consommation, notamment en provenance de Chine. Mais ça ne résout pas non plus des problèmes fondamentaux entre les deux pays, qui est un très grand déséquilibre des échanges. On l'a dit au sujet de l'Inde, on le sait aussi au sujet de la Russie, où la Russie de plus en plus apparaît auprès de la Chine comme une sorte de fournisseur de matières premières, mais qui est incapable d'obtenir un statut de grande puissance technologique, par exemple.
Eh bien, merci beaucoup Valérie Niquet, chercheuse et spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci d'être venue éclairer nos lanternes. J'ajoute que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un sera de la partie mercredi en Chine pour la grande parade militaire chinoise. Je rappelle que les Nord-Coréens combattent ou ont combattu auprès de la Russie contre l'Ukraine. Merci beaucoup Valérie Niquet. À la une également, cette flottille humanitaire en partance pour Gaza après l'échec de l'expédition du Madeleine, c'était l'été dernier. Eh bien aujourd'hui, les activistes eux-mêmes ne sont pas tous convaincus que leurs bateaux arriveront à bon port pour livrer des denrées à la population de Gaza. À bord d'un des navires, il y a la militante suédoise Greta Thunberg. Les premiers bateaux partiront dans quelques minutes de Barcelone. Ils seront rejoints par d'autres dans quelques jours pour tenter donc de briser le blocus israélien et ouvrir un couloir humanitaire qu'ils espèrent pérenne. C'est un objectif que précise le Suisse Samuel Crétenant. Il est l'un des coordinateurs du Global Summon Flotilla.
Notre but, c'est pas de nourrir la population. On peut pas le faire avec les bateaux. Il faut beaucoup plus d'alimentation qui puisse rentrer. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'ouvrir un corridor humanitaire pour que après nos différentes vagues de bateaux, puissent suivre des cargos qui déchargent des tonnes de nourriture. Donc notre but, c'est d'y aller coûte que coûte. Ce n'est pas un acte médiatique. On craint la réaction d'Israël, mais on est là-bas pour remplir un devoir de citoyen et pallier à ce que nos gouvernements occidentaux ne font pas. On a eu 32 000 demandes d'enregistrement et pour 2/3 d'entre elles, les gens voudraient partir sur les bateaux. Évidemment, on n'a pas cette capacité-là, malheureusement. Mais ça montre un engouement planétaire extraordinaire et c'est juste le début. Il y aura énormément de manifestations sur Terre aussi pour accompagner la flottille. Donc les gens qui n'ont pas pu monter sur les bateaux auront aussi toute une série d'actions dans tous les pays que nous avons rassemblés pour cette flottille.
En Italie, ces derniers jours, c'est le plus infamant du web qui remonte à la surface avec deux scandales, deux affaires autour de photos intimes de femmes, des photos postées sans leur consentement. Et dans l'un des deux cas, Bruno Duvic, ce sont leurs propres maris qui déposaient les images en les commentant.
Elle a 35 ans, elle est infirmière. La photo est arrivée par le jeu de l'algorithme sur son fil Facebook. Elle a repéré le détail d'un sein, son sein. Celle-ci a deux enfants, elle a reconnu son lit sur l'image floutée et découvert que son mari répondait aux commentaires graveleux. Des femmes prenant le soleil, une pose suggestive dans la vie quotidienne, une photo intime laissée en toute confiance. Ce sont les maris et compagnons, policiers, avocats, journalistes qui postaient. Plus de 30 000 utilisateurs, plus de 3 000 plaintes. Facebook a mis 6 ans à fermer la page qui s'appelait « Ma femme » uniquement quand le scandale a éclaté, l'affaire Pellicot étant bien souvent mentionnée au détour des témoignages. L'émotion retombait à peine qu'un autre scandale a éclaté, une plateforme où étaient postées des milliers de photos d'inconnus et de célébrités jusqu'à Giorgia Meloni. Logique similaire, même si ce ne sont pas les maris qui postaient. Les utilisateurs risquent la prison pour diffamation, incitation à la délinquance, voire atteinte à représentants de l'État. Reste la question: combien de sites de ce type sur Internet?
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. C'est un revers commercial pour la France. La Norvège a finalement préféré retenir l'offre britannique pour se fournir en frégate de guerre. C'est un nouvel échec pour le français Naval Group. Naval Group qui a déjà été écarté il y a quelques jours par le Canada pour remplacer ses sous-marins.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Nous sommes à moins d'une semaine de sa possible chute s'il est renversé lors du vote de confiance. François Bayrou va tenter ce soir encore de convaincre les Français et surtout les députés du bien fondé de son plan budgétaire. Ce sera à partir de 18h, il va répondre aux questions des chaînes d'infos en continu. Ce matin, le socialiste Olivier Faure a encore enfoncé le clou en disant que la décision du PS était irrévocable. François Bayrou doit dire au revoir, fin de citation. Et cela risque donc d'être difficile, délicat ce soir pour le Premier ministre de séduire du côté de la gauche, Sonia Gobry.
Oui, même si les dés semblent déjà jetés, à gauche les réactions ont été quasi immédiates. Tous les partis voteront contre la confiance à François Bayrou, les insoumis et les écologistes refusent même de le rencontrer à Matignon. Alors face à ce constat, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a appelé tout à l'heure sur France Inter tout le monde à se ressaisir pour éviter, ce sont ces mots, un suicide collectif.
Il faut aller vers le compromis, trouver les solutions avec l'ensemble des formations politiques qui acceptent de discuter, c'est-à-dire du Parti Socialiste aux Républicains. Je pense que cet espace-là, il est possible.
Mais vous le disiez, Éric, hein, pour les socialistes, la décision est irrévocable. Message du patron du PS, Olivier Faure, mais Manuel Valls espère encore rallier son ancienne famille politique.
J'ai bien compris que chacun est depuis le début sur les positions. Mais comme le Premier ministre va rencontrer les groupes parlementaires d'ici à jeudi ou vendredi, qu'il va s'exprimer en fin d'après-midi, j'espère que les uns et les autres trouveront les mots et le sens de la responsabilité pour éviter cela au pays. Si ça n'est pas cela, alors nous irons vers une crise politique lourde, une crise de régime.
François Bayrou espère lui aussi renverser le cours des choses. À 8 jours du vote de confiance, il n'est pas confiant, mais ne veut pas s'avouer vaincu, nous confie ce midi un de ses intimes. Avec cette interview sur 4 chaînes de télévision ce soir, le Premier ministre va une nouvelle fois prendre à témoin les Français pour tenter de convaincre.
Sonia Gobry, service politique de France Inter. Effectivement, à partir de demain, François Bayrou recevra les chefs de parti et de groupes parlementaires qui le souhaitent. La France a besoin d'un budget dans les temps. Face à une situation financière qui n'est certes pas critique, mais tout de même préoccupante. Ce sont les mots ce matin du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Une grande page des sports, je vous le disais dans les titres. On va commencer par le rugby avec ce 15 de France féminin qui va disputer cet après-midi son deuxième match de Coupe du Monde. Ce sera face au Brésil à partir de 17h45. Ça se passera au Sandy Park Stadium d'Essester, c'est en Angleterre. Le Brésil est une toute jeune équipe de rugby, inexpérimentée sur la scène internationale. Et à l'inverse, l'équipe de France pourra compter tout à l'heure sur le retour de sa demi-mêlée. La Toulousaine Pauline Bourdon-Sensus, elle avait été suspendue pour la première rencontre. L'internationale aux 56 sélections n'a pas joué depuis 3 mois. Et elle ne cache pas, vous allez l'entendre, elle ne cache pas son impatience de rentrer dans la compétition.
Je suis vraiment excitée, je pense que j'ai du feu dans les jambes. Et depuis le mois de juin, je n'ai pas joué. Et là, on sent vraiment un engouement aussi autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui attendent mieux. Et nous aussi, on a envie de faire mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est dit toute la semaine. On veut vraiment marquer les esprits et scorer un maximum pour dire il faut faire attention à l'équipe de France.
Voilà, France-Brésil, à partir de 17h45 et en cas de victoire, les Bleus valideraient officiellement leur billet pour les quarts de finale. Le sport aujourd'hui, c'est aussi du tennis. Il n'y a plus de Françaises dans le tableau de féminin de l'US Open, mais il reste encore 2 Français à New York, Adrien Manarino et Arthur Rinderknecht. Ils vont tenter tous les deux d'atteindre pour la première fois aujourd'hui les quarts de finale d'un grand chelem. Ce sera à 17h. Adrien Manarino va défier le Tchèque Jerry Lechka. Et dans la foulée, l'autre Français, Arthur Rinderknecht, va être opposé au numéro 2 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Gros morceau. Fabrice Abgrane, le Breton, mesure l'ampleur de la tâche, sans toutefois paniquer.
Arthur Rinderknecht aura dû attendre ses 30 ans pour disputer son premier 8e de finale en Grand Chelem. Entre lui et Carlos Alcaraz, il y a 8 ans d'écart et 80 places de différence. Pour ne rien arranger, le Breton n'a jamais battu l'Espagnol en 3 confrontations. Difficile d'imaginer qu'Arthur Rinderknecht va réaliser l'exploit d'éliminer le numéro 2 mondial, vainqueur de l'US Open en 2022. Mais Arthur Rinderknecht ne veut pas se présenter en victime expiatoire. Il est vrai que le 82e mondial a pris cette année une autre dimension, notamment face aux joueurs du top 10, contre les lesquels il ne fait plus aucun complexe. Il en a battu 2 cette année, ses 2 premiers en 7 ans de carrière, tous les deux sur gazon, Ben Shelton le numéro 10 au Queens et surtout Alexander Zverev le numéro 3 à Wimbledon. Arthur Rinderknecht se sent armé désormais pour sinon battre, du moins inquiéter ce type de joueur. Et c'est Lucas Pouille qui lui en a fait prendre conscience. Le nordiste est toujours en activité mais blessé, il sert en ce moment de coach à Rinderknecht qui reconnaît qu'avec Lucas Pouille à ses côtés, il se sent plus fort et plus serein.
Fabrice Abgrale, l'homme du tennis à France Inter. Un mot de football encore, 3e journée de Ligue 1, avec une première pour le Paris Football Club qui recevra Metz cet après-midi dans un nouveau stade. Exit le stade Charletti dans le 13e arrondissement de Paris. Place au stade Jean Bouin, voisin du Parc des Princes. Les supporters du Paris FC attendaient ça depuis 46 ans, Julien Froment.
Oubliez le stade Charletti, sa piste d'athlétisme, ses tribunes ouvertes aux 4 vents. Le Paris FC bénéficie enfin d'un outil à la hauteur de ses ambitions. Une nouvelle pelouse hybride, un habillage bleu et blanc qui orne les tribunes et le nom du locataire affiché en lettres capitales pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Stéphane Gilly.
Il y a eu un gros travail de fait en moins de 2 mois. On est très content d'arriver dans un stade qui est plus approprié.
Les joueurs ont pu s'entraîner dans ce nouvel écrin en milieu de semaine et ils sont conquis. Le milieu de terrain, Vincent Marquet.
Il faut être difficile pour dire que c'est pas un très bel outil de travail. Ça fait plaisir, sans faire injure à Charletti. C'est vrai qu'on passe un step. Première sensation, très agréable.
Cet après-midi, le stade sera quasiment à guichet fermé. 20 000 supporters présents pour encourager le Paris FC. Des encouragements qui, cette saison, s'entendront fort et clair, espère Stéphane Gilly.
On disait l'an dernier, souvent, il y avait 16, 17, 18 000. On ne ressentait pas cette ferveur, cette chaleur. Ben, je pense que là, derrière les buts, voilà, quand ça va être plein et si ça pousse, on va vraiment pouvoir parler du 12e homme.
Un 12e homme dont on aura bien besoin, le Paris FC, le 2e club de la capitale, affiche 0 point après 2 journées. La réception d'un autre club promu, le FC Metz, est donc une belle opportunité d'enfin lancer l'aventure Ligue 1.
Vous connaissez les algues vertes, très répandues en Bretagne. Eh bien, voici les algues rouges sur les plages de Vendée, en particulier sur la plage de Sion en ce moment. Des algues rouges inoffensives pour l'homme, mais qui libèrent une odeur très forte et même insupportable lorsqu'elles se décomposent. Eh bien, cette année, les quantités d'algues rouges sur les plages de Vendée sont exceptionnelles, conséquence du réchauffement climatique, disent les scientifiques. Cela en peste donc sur les plages de Vendée, à Sion, riverains et promeneurs sont contraints de s'adapter. Ici Loire-Océan, reportage de Thierry Maïs.
Pas besoin de les chercher longtemps, l'odeur iodée chatouille les narines. Des algues rouges ici, il y en a partout, c'est ce que remarque Anita, une habituée.
Jamais il y a eu autant de dépôts d'algues. Là, on a toute une bande avec des couleurs assez bizarres. Moi, dans le temps, je ne voyais jamais d'algues aussi rouges que ça sur cette plage. Ça m'inquiète.
Elles s'accumulent régulièrement ici dans la baie de Sion, surtout l'été. Ces algues proviennent d'un plateau rocheux au large de Saint-Hilaire-de-Riez. Et c'est la chaleur qui les détache avant que les vents d'ouest les poussent jusque sur cette plage où elles se décomposent. Pascal préfère s'en éloigner.
On voit la plage toute rouge, la plage en est remplie et on a les odeurs aussi. Pourtant j'aime l'iode, mais non, ça sent très mauvais. Je viens plutôt par ici dans les rochers où ça sent moins.
Paul Coulet est le responsable de la base nautique de Sion et il est parfois contraint de déplacer ses bateaux.
Ce sont les algues en décomposition. On a pas mal de gens qui sentent les algues de Sion, mais ça fait aussi son caractère à cette plage-là.
L'hiver, les algues sont laissées sur la plage pour protéger le sable des tempêtes et l'été, elles sont ramassées.
On a eu des bennes et des bulldozers pour enlever les algues avant qu'elles se décomposent.
Des quantités exceptionnelles cette année qui sont ramassées la nuit. Elles sont ensuite séchées et transformées en engrais.
Et puis retenez que dans l'Aude, la forte présence policière est maintenue ce matin encore à Fonjoncouze, sur le site de la Rave Party, pourtant interdite, mais qui rassemble environ 2500 fêtards. C'est dans cette même zone de cendres qui a été ravagée donc début août par un gigantesque incendie. Plusieurs participants ont d'ailleurs été placés en garde à vue ces dernières heures. Le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec un ciel qui sera toujours bien perturbé cet après-midi.
Oui, avec des averses soutenues et parfois orageuses, de la grêle également entre l'Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, la région centre, l'ouest de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. De part et d'autre de cette perturbation, là c'est plus calme. On a un ciel de traîne pour les régions près de la Manche avec des nuages, des éclaircies et encore quelques gouttes. C'est calme aussi, encore largement ensoleillé du flanc est à la Méditerranée, mais c'est le calme avant la tempête pour le sud-est où la perturbation va arriver ce soir. Un épisode méditerranéen va se mettre en place avec de forts orages et des cumuls de pluies importants entre la Lozère, la Drôme et les Bouches-du-Rhône. Un épisode qui s'étendra de ce soir à demain matin.
Et pour les températures?
Alors ça reste juste pour la saison sur la pointe nord et sur le nord-ouest avec seulement 19 à 23 degrés. C'est plus chaud sur le sud et le flanc est, 23 à 28 degrés jusqu'à 32 degrés près de la Méditerranée, une maximale pour Perpignan.
Les prévisions de Céline Dacosta.